Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais essayer de tenir les délais en essayant en plus de montrer des extraits de mon film. Hein, c'est pas une mince affaire. L'idée effectivement de cette présentation, bah, c'est d'essayer de faire un peu le lien entre les discours en présentation dominante sur les quartiers dits prioritaires et l'espace vécu dans ces espaces urbains. On va voir que tout ça, j'essaye de le mettre un peu en lien en conceptualisant notamment le processus de marginalisation et tout ça en m'appuyant notamment sur le film documentaire que j'ai réalisé, en tout cas sur des extraits. Alors, pour commencer un peu le contexte de cette recherche, je me permettrai commencer en fait par une anecdote personnelle. Il y a un an et demi, une réunion était organisée chez moi, dans le quartier du Blône, sur Rennes, dans le cadre d'une association sportive. Et puis, à l'approche de la soirée, je reçois deux SMS. Hein, donc, j'ai reproduit le premier ici. Donc, le premier, est-ce qu'il est safe le parking à côté de chez toi ? Et même teneur pour le deuxième, mais concernant le fait de pouvoir venir garer sa voiture. Il se trouve qu'on est ici, donc l'objectif c'est pas de montrer du doigt telle ou telle personne, hein, c'est vraiment de montrer comment on est ici face à des discours, des représentations circulantes hein, qui servent à évaluer des espaces urbains et à leur donner un certain nombre de caractéristiques. Ici, le Blône, ça craint. Et le Blône fait partie de l'un des trois quartiers de ma recherche, à côté de Maurepas et de Villejean. Ce sont notamment des quartiers dits prioritaires de la ville de Rennes. Alors, ces espaces, ils cristallisent un certain nombre de discours, hein, de représentations dominantes sur l'insécurité, la mixité sociale, le communautarisme, la pauvreté. Et sur le mode de l'évidence, ils sont associés à un certain nombre de caractéristiques qu'ils instituent comme problèmes de société, pour reprendre l'expression de Borel. L'idée, du coup, de ma recherche, c'était d'interroger comment la mise en mode de ces espaces participe, en fait, à la construction sociale de ces espaces urbains, et puis également d'appréhender la manière dont cette construction, que j'ai appelée construction socio-discursive, a des impacts en termes de vécu quotidien pour les habitants et les habitantes. Alors, cette recherche, elle n'est pas uniquement issue d'un intérêt intellectuel, personnel. Elle visait aussi à répondre à un besoin de la part de la collectivité. C'est-à-dire que l'enjeu de cette recherche, c'était aussi de faire une recherche qui serve à quelque chose, pour citer Thierry Bulot, qui était un enseignant chercheur sur Rennes, qui est décédé maintenant. Alors, ce besoin, on peut en gros le résumer à partir de deux aspects. D'une part, une situation problème, à savoir le fait que la collectivité éprouve des difficultés dans la compréhension de certains phénomènes socio-spatiaux sur les trois quartiers étudiés. Et puis d'autre part, une demande sociale réelle de la collectivité de pouvoir être interrogée, dérangée par rapport aux discours produits et aux présupposés qui sont implicitement partagés sur ces espaces urbains. J'ai donc pensé conjointement un enjeu de recherche, donc j'ai énoncé précédemment, et puis un enjeu d'action, de transformation sociale. Et ces deux enjeux se sont nourris continuellement tout au long de ma recherche. Je me suis donc inscrit dans une démarche de recherche-action et plus spécifiquement dans mon cas, ce que j'ai appelé une recherche-médiation. Alors, je comprends recherche-action tout d'abord déjà comme la dénomination générale d'une démarche de recherche qui s'inscrit dans une perspective de transformation sociale. L'idée ici, c'est celle d'une science en société, hein, pour reprendre Souchard et Bonny, où la démarche réflexive et la dimension citoyenne est centrale. Et cette recherche-action, elle s'est construite peu à peu, au contact du terrain, au fur et à mesure, avec les professionnels avec lesquels je travaillais, mais aussi également avec les habitants et les habitantes, puisque mon travail repose sur un gros travail ethnographique. Alors, concrètement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande sociale implicite hein, qui apparaissait. Alors, d'une part, une perspective critique qui était déjà présente chez les professionnels et qu'il s'agissait de réussir à entendre et à déplier. Des espaces de discussion et de réflexion collective qui étaient manquants aussi au sein de la collectivité. Une demande d'un regard extérieur et d'un rapport réflexif. Et puis, le quatrième point, il est exprimé aussi une déconnexion entre habitants, habitantes et professionnels. Et donc, tous ces aspects, mis bout à bout, m'ont amené à réfléchir à des modalités de recherche qui permettent en fait de répondre à cette demande implicite et donc de penser une démarche de recherche-action où l'enjeu de médiation est central. Et ici, notamment, ce qui était central, eh ben, c'était de réussir à faire dialoguer scientifiquement le vécu des habitants et des habitantes avec les représentations dominantes qui guident l'action publique. Alors, en plus du travail de terrain, des entretiens réalisés, on va dire, de manière assez classiquement, dans une approche de sciences humaines et sociales, j'ai mis en place des espaces de médiation scientifique durant ma recherche. Alors, ces médiations scientifiques, c'était pas uniquement, en fait, des moments de restitution de la recherche, c'était des moments qui faisaient partie à part entière de la recherche, puisque c'était des moments où moi aussi je pouvais confronter mes analyses, mes interprétations avec les personnes qui étaient présentes, et puis cette confrontation, eh ben, ça venait réouvrir aussi mes propres analyses, mes propres interprétations, et ça me permettait de rapporter du terrain que je n'aurais pas pu avoir autrement. Et dans le même temps, évidemment, ça s'inscrivait aussi dans une dimension applicative de ma thèse, et donc dans cet aspect de recherche-action. Alors concrètement, j'ai mis en place deux types de médiation. Médiation sociolinguistique, où là, l'idée, c'était d'interroger collectivement des notions comme mixité sociale, communautarisme, d'essayer de comprendre justement tout ce qui se cache un peu derrière ces notions et ce que ça peut renvoyer en termes de représentation. Et puis, l'autre aspect sur lequel je vais peut-être un peu plus me concentrer aujourd'hui, ça a été des médiations filmiques, c'est-à-dire des projections débats organisées à partir du film documentaire que j'ai réalisé dans ma thèse, projection débat dans la collectivité, mais aussi en dehors. Alors, le film que j'ai réalisé, il s'intitule Entre quatre tours, et il a été réalisé notamment sur la Dalle Kennedy, qui est un lieu qui cristallise un certain nombre de représentations négatives. Je vous l'ai dit, je me suis inscrit dans cette démarche de recherche-médiation, et assez rapidement, cette démarche, elle m'a incité en fait à réfléchir à une autre manière de faire de la recherche, de l'écrire, de la rendre accessible aussi. Et dans ce sens, j'ai fait un film documentaire un peu dans une triple perspective. Tout d'abord, le fait de mobiliser l'approche filmique dans une démarche de recherche, c'est tout d'abord effectivement une méthode de recherche, puisque ça permet en fait d'appréhender l'espace vécu, d'appréhender aussi une dimension sensible qui est parfois difficilement transmissible à l'écrit. Ça permet également une autre manière de faire du terrain et de se questionner justement sur ce que ça produit en termes de connaissances. Ça a été également une méthode d'écriture, puisque un film documentaire, c'est une méthode d'écriture aussi de la recherche qui est complémentaire de l'écrit, avec sa propre grammaire, ses propres choix, c'est aussi une mise en récit, ça demande une réflexivité sur ce qu'on montre, ce qu'on montre pas, et puis c'est également une autre forme de connaissance et de mise en forme et en sens de cette connaissance. C'est également une méthode qui permet de rendre compte aussi des relations chercheurs-enquêtés, et ça aussi c'est intéressant en termes de réflexivité. Et puis le dernier aspect dans ma recherche, c'est que je l'ai mobilisé comme une méthode de médiation, c'est-à-dire en gros comme un support aussi d'intervention sociale. Et là, ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir mettre en avant le pouvoir interrogateur du film, notamment du fait qu'il permet de rentrer dans ce que Edgar Morin appelle une compréhension subjective, hein, c'est-à-dire en fait de comprendre aussi ce que vit autrui, ses sentiments. Et dans ce sens, le film a été parfois qualifié de bousculant, marquant, car il permettait justement de ressentir le vécu de la stigmatisation. Et là, on voit bien ici comment le film permet justement de jeter des ponts entre des mondes sociaux qui s'ignorent, comme le dit Benoît Raoult. Et ça aussi, c'était une part importante dans ma thèse. Alors, je vous propose ici deux premiers extraits de mon film, qui viennent introduire le film, qui viennent rendre compte de cette démarche résolument ethnographique dans le film de recherche. Et puis, ça permet également de commencer à appréhender l'espace vécu et notamment le vécu de la stigmatisation.
Nivernais, je vais montrer un peu le quartier, après je vais venir par ici. Et comment ça fonctionne? Tu me poses des questions et tout, ou...
Bah, comme tu veux, tu peux me dire après toi ce que tu as envie de me dire, et puis après on peut...
Moi, je pense que c'est mieux si tu me poses des questions et je réponds aux questions.
Ça marche, on peut faire comme ça.
Mmh. Ouais, du coup, l'école, elle est là.
C'est quoi qui fait que t'es accroché comme ça, ici?
Je sais même pas, en vrai, voilà, je sais même pas. C'est les gens, c'est tu vois, c'est dur de quitter l'endroit où t'as grandi, tu vois. Pour de vrai, t'as capté. Ouais. Tu vois, tous les moments où t'as passé, les moments, les bons, les mauvais, tu vois. Tu vois ce que tu veux dire? Mmh. Ça veut dire que ça te bloque un peu, tu vois, de... T'es bien en fait dans l'ambiance, dans l'environnement où t'as grandi. Et t'es nulle part mieux que chez toi, t'as capté? Et ça, c'est le délire. Donc du coup, voilà. Là, on va arriver sur la Dalle Kennedy, là.
Avec Abdou, nous nous sommes d'abord rencontrés plusieurs fois, au gré de ses allées et venues sur la dalle. Puis, Quand il était disponible, on marchait ensemble. Il me montrait le quartier, comme il disait. Souvent avec lui, parfois sans lui, j'ai alors filmé, caméra à l'épaule, au fur et à mesure de mes déambulations.
On veut tous barrer d'ici.
On veut tous se casser de ce quartier de merde.
Pourquoi ? Quartier de merde ? Ah, t'as pas le quartier ?
Non, c'est pas ça, on veut se sortir, tu vois. Voilà.
Donc, en fait, ici...
J'aime bien le quartier, j'aime bien. J'ai
donc, en gros, ici, en fait, ici, tu peux pas te sortir, c'est impossible de sortir ici. Ouais. C'est ça, parce que tu me dis alors. Pourquoi c'est impossible ?
Parce qu'il y a rien ici, il faut se barrer d'ici.
Il y a rien ici ?
Il y a rien ici, il faut se barrer.
Il faut se barrer où ?
Je sais pas, il faut se barrer, il faut avoir un projet, quoi. Quand il faut se barrer, c'est d'avoir un projet, partir d'ici.
Donc, tu penses qu'ici, on ne peut pas construire des projets construits vraiment solides ? C'est mort, en fait. Si je peux aller au mot, on est voué à l'échec.
Voilà.
Ici,
voilà.
Tout le monde est voué à l'échec.
Voilà, ici, tout le monde est voué à l'échec.
Alors, ce qui commence à transparaître ici à travers ces extraits, donc c'est des dynamiques d'appropriation assez fortes, et puis en même temps, voilà, ce vécu de la stigmatisation qui impacte notamment l'estime de soi. Alors, afin d'appréhender ces aspects en lien avec les discours en représentation dominante sur ces espaces, j'ai proposé dans ma thèse de conceptualiser le processus de marginalisation un peu dans une double perspective, la marginalisation dans une perspective de théorisation sociale, dont je vais parler maintenant, et puis la marginalisation dans une perspective de théorisation politique dont je parlerai rapidement à la fin. Alors, dans une perspective de théorisation sociale, la marginalisation renvoie ici à un processus de mise à distance sociale, spatiale et discursive. Alors, l'idée ici, c'est que la marginalisation renvoie au fait d'être extérieur à un espace, aussi bien matériel, l'espace géographique, que métaphorique, espace social, conçu comme légitime. Le marginal est celui qui renvoie une norme qui ne s'accomplit pas, dit Castel en 1996. Et dans ce sens, ce sont des quartiers à normaliser, comme j'ai pu l'entendre à de nombreuses reprises durant ma recherche. Alors, pour rendre compte de ce processus de marginalisation donc dans une perspective de construction socio-discursive dont je parlais au début, je vous propose ici une schématisation que je vais vous présenter un peu au fur et à mesure, en essayant d'être le plus clair possible. Alors, on part des discours et des représentations dominantes en haut du schéma. Et on arrive à ce premier aspect qui renvoie au fait que autour de ces espaces urbains, l'univers discursif est particulièrement prégnant. Quentin parlait tout à l'heure notamment de disqualification des HLM, etc. Donc là, effectivement, il y a des discours médiatiques, des représentations télévisuelles qui ont contribué à la constitution d'un imaginaire national autour de ces espaces urbains, notamment aussi à travers le traitement des émeutes urbaines. Et cet imaginaire, il se construit en s'appuyant notamment sur une mémoire discursive, qui est une mémoire collective, éminemment sociale, sur laquelle s'appuie aussi d'ailleurs l'action publique. Et en appuyant sur cette mémoire discursive, ces espaces tendent à renvoyer à un en dehors de la société, comme le dit Borel. Alors ces espaces aussi, ces espaces sont aussi le support d'une assignation identitaire et sociale. Alors, identitaire et sociale parce que dans ma recherche, ce que j'ai mis en lumière, c'est le fait que la marginalisation de ces espaces, la marginalité, pardon, s'appuie sur ce que j'ai appelé deux figures sociologiques, la figure du pauvre et la figure de l'étranger. Alors, très rapidement, la figure de l'étranger, elle doit se comprendre en lien avec la postcolonialité de notre société et le fait que la difficulté de penser l'étranger comme faisant partie intégrante de la communauté nationale, l'étranger tend à être institué dans une position d'exclu de l'intérieur, et c'est une séparation entre un « eux » et un « nous » qui s'instaure et qui ne fait que rappeler aux habitants et aux habitantes de ces espaces leur statut d'éternel étranger. À côté de ça, il y a effectivement cette figure du pauvre aussi qui revient de manière assez récurrente, et là qui renvoie à ce que j'ai appelé dans la continuité de Georges Simmel, j'ai appelé ça le malheur du pauvre, c'est-à-dire en fait le fait que le pauvre ne peut être considéré que comme pauvre. Et donc les habitants et les habitants de ces espaces urbains tendent à être réduits à cette caractéristique, et l'idée sous-jacente ici renvoie au fait que les valeurs et modèles sociaux transmis justement par le pauvre tendent à être considérés comme nécessairement néfastes. Alors ces figures d'étrangers du pauvre, elles ne sont pas exclusives aux quartiers dits prioritaires, mais elles s'expriment, elles se manifestent avec d'autant plus d'acuité dans ces espaces, elles prennent sens et forme dans l'espace géographique, et c'est dans ce sens où je parle de figures spatialisées. Alors, dans le cas des quartiers dits prioritaires, c'est vraiment une imbrication de ces deux figures que je mets en lumière. Et cette imbrication est d'autant plus possible que ces deux figures reposent sur les mêmes opérateurs de sens, à savoir une position d'exclu de l'intérieur et une position d'infériorité sociale. Ces deux aspects renvoient alors, dans la continuité de ce qu'il disait Kaufmann, à la notion de stigmate, qui renvoie à la situation de l'individu, que quelque chose disqualifie et empêche d'être pleinement accepté par la société. Ce qui est intéressant ici, dans le cas des quartiers prioritaires, c'est que l'espace est doublement présent dans cette stigmatisation. Je l'ai dit précédemment, par les figures spécialisées, c'est une stigmatisation dans l'espace, géographique et social. Mais il se trouve que dans le cas des quartiers dits prioritaires, l'espace lui-même est porteur, en fait, de caractéristiques dépréciatives qui permettent par métonymie d'évaluer les habitants et les habitantes de ces espaces. C'est donc également un processus de stigmatisation par l'espace qui se met en place, et c'est bien cette double modalité dans et par l'espace qu'il faut avoir à l'esprit dans le processus de marginalisation. Ça me permet d'arriver à ce point 3 qui est ce que moi j'ai appelé dans ma thèse le retournement du stigmate par l'espace. Effectivement, du fait que cette stigmatisation passe par l'espace, on peut mettre à jour aussi ce retournement du stigmate par l'espace. L'idée, c'est de dire que l'espace lui-même est support et porteur du stigmate, et donc d'une valeur négative. Et afin de mieux vivre, si je puis dire, cette commune excommunion, les habitants et les habitantes de ces espaces vont retourner la valeur de ces espaces et l'associer à une valeur positive. L'enjeu ici, c'est bien de construire un rapport positif à soi. Et donc, effectivement, il y a un vécu de la stigmatisation, mais il y a aussi, dans le même temps, du fait de ce retournement, un attachement particulièrement fort des habitantes à ces espaces. Et ce retournement, il favorise aussi une appropriation saillante de l'espace pour construire justement ce rapport positif à soi. Donc je vous propose ici un deuxième extrait du film qui permet notamment de rendre compte de cette appropriation saillante.
T'es un mytho. Mais il se passe quoi, gros, wesh? Wesh, t'as vu qui?
Non, regarde, j'ai mis premier but Ajax, j'ai mis Shakhtar. Mais non, c'est un ouf, moi, je me fais tout de suite.
Wesh, wesh, pourquoi tu fais?
Je me fais les mains, je t'assure. Rien, je ne pas le visage.
Vas-y.
Ça vous est arrivé, tu vois, de squatter des hall d'immeubles, par exemple?
De squatter des hall d'immeubles, ouais, mais en fait, nous, on n'avait pas ça à squatter, en fait. Pourquoi on n'avait pas ça à squatter? Parce qu'en fait, on est chez nous, tu vois. Du coup, on ne dit pas qu'on squatte chez nous. Enfin, tu veux pas squatter ton salon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, après, c'est vrai que l'espace, là, il est commun, il a tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'a pas l'impression, en fait, de squatter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on est dans notre bâtiment. Enfin, tu vois, moi, quand je suis en bas de chez moi, je suis avec des potes en bas de chez moi. Je ne squatte pas, je veux pas squatter chez moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais vous habitez pas. Bon, vous habitez pas forcément les
tours.
Immeubles, ouais.
Si, on habite des tours. Après, on n'habite pas forcément, ouais, bah, la tour d'en face, j'habite pas dedans.
Ouais, c'est ça.
Pas dedans, mais c'est, je sais pas, en fait, c'est comme si c'était chez moi aussi, tu vois. C'est la même, en fait, tu vois.
Donc, ce qui est intéressant ici, ce qui vient s'exprimer, c'est notamment vraiment une appropriation identitaire de l'espace. Hein, c'est-à-dire l'idée que l'espace, en fait, participe à la définition même de son identité sociale. Et cette appropriation identitaire, elle est justement d'autant plus forte qu'elle s'inscrit dans ce retournement du stigmate dont je parlais tout à l'heure, et qu'elle vient se jouer justement à l'échelle du quartier. Donc c'est pour ça, hein, il n'habite pas cette tour spécifique, mais en fait, finalement, ce n'est pas très important, parce que c'est bien l'espace dans son ensemble qui participe à la définition de cette identité, et qui permet notamment de revendiquer une place légitimée, à défaut d'avoir une place légitimée dans la société, tout du moins dans l'espace approprié. Alors, ça permet de terminer rapidement un peu ce processus de marginalisation dont je parlais. Donc, le paradoxe, c'est qu'on est face ici à des dynamiques socio-spatiales qui visent à construire un rapport positif à soi, mais ces rapports sociaux, ces rapports à l'espace, pardon, ces appropriations, sont qualifiés le plus souvent de non-positives, apparaissent comme spontanément injustifiées, illégitimes. Et en lien avec la mémoire discursive dont je parlais au début, avec la figure du pauvre, de l'étranger, viennent générer un sentiment d'insécurité du fait de cette appropriation saillante. Et ici, on peut terminer du coup par un dernier aspect, qui est que ce sentiment d'insécurité, associé donc à cette incompréhension des dynamiques sociales, viennent renforcer et alimenter le processus de mise à distance sociale, mais aussi renforcer et alimenter la volonté de normalisation de ces quartiers qui est au cœur notamment des politiques publiques. La boucle est bouclée, si je puis le dire ainsi, puisque en fait les discours de représentation dominante viennent se construire de nouveau au sein de cette dynamique récursive. Alors, je vous propose ici un dernier extrait qui permet un peu de retrouver un certain nombre d'éléments que j'ai énoncés jusqu'à présent et qui ont permis également de faire la transition vers ce processus de marginalisation, mais ici également dans une perspective de théorisation politique.
Je sais pas s'ils ont peur du Nord ou pas, t'as capté, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont peur, en fait,
de tout ce qu'ils connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté, ils ont peur du. En fait, ils ont. T'as même pas encore dit bonjour, qu'ils ont déjà l'idée en fait de commenter, comment tu vis. Tu vois, ils ont déjà ça en tête, t'as capté, alors qu'ils te connaissent pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, à part s'ils sont devins, tu vois, ils peuvent pas savoir commenter, forcément, t'as capté. Mais je pense qu'en fait que il y a une stigmatisation, t'as capté, forcément, voilà, quoi. C'est les Rondas qui vont de la drogue, c'est les Rondas qui vont de la drogue, bah, donc forcément lui aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, t'as capté? Et c'est ça en fait qui crée une ambiance en fait. Ça crée une ambiance. Parce que moi, à partir du moment où je ne te connais pas, et t'as déjà un préavis de moi, comme quoi je vais entrer de la drogue, comme quoi je ferai du bruit, tout ça, qu'en gros, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment là, bah, moi je me dis quoi? Je me dis, bon, bah tu sais quoi? S'ils pensent tous comme ça, bah autant être comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? C'est ça que la plupart des jeunes en fait ils se disent en fait. Tu vois? C'est même pas en fait. C'est qu'en fait, on a déjà une étiquette en fait sur la tête, t'as capté? Quand t'as déjà une étiquette sur la tête et que t'as beau l'enlever, et qu'à chaque fois elle réapparaît, eh ben tu prends plus la tête et puis tu deviens l'étiquette, tu vois? Tu fais comme l'étiquette te dit. Donc voilà quoi, tu vois. C'est ces problèmes là, t'as capté? Après forcément, j'ai pas tout idéalisé, tu vois, on n'est pas tous des anges, tu vois ce que je veux dire? Les gens font n'importe quoi, mais c'est comme partout. Mais ne jamais stigmatiser. Parce que c'est la stigmatisation qui crée la haine en fait, t'as capté? C'est ça qui crée la haine chez les gens. Et après les gens ils commencent à dire ouais, des différences sociales, différences culturelles. Ça vient de là. T'as capté? Et du coup voilà.
Donc je terminerai là-dessus parce que j'ai déjà en plus dépassé. Donc cette étiquette dont parle Adou, ce processus de marginalisation dont je viens de parler, évidemment, ça a des impacts en termes d'estime de soi. C'est quelque chose que j'ai mis en avant à nombreuses reprises dans ma thèse. Ce qui m'intéresse ici également, c'est de mettre en avant que la mise à distance qui découle du processus de marginalisation a aussi des impacts en termes de justice sociale. Là, l'idée, ça renvoie au fait, pour reprendre les termes de Nancy Fraser, au fait que les habitants et les habitantes de ces espaces ne sont pas considérés sur un pied d'égalité dans l'interaction sociale. Alors, Diketch écrit à propos de la construction discursive des banlieues, il dit « Les habitants de ces espaces ne sont pas seulement mis à distance spatialement, ils sont aussi socialement et politiquement déconsidérés. Ils sont trop différents, trop pauvres, trop violents, pas assez intégrés, pas assez français. » La marginalisation peut donc également se comprendre et se penser comme déconsidération sociale et politique. Et dans cette optique de justice sociale, comme j'ai modestement essayé de le faire dans ma recherche, il s'agissait alors d'inciter à repenser le regard porté sur les habitants et les habitantes de ces espaces, les places assignées à chacun et à chacune, pour passer des quartiers anormalisés aux habitants à considérer. Voilà, je vous remercie de votre attention.